Laudetur Jesus Christus.
Chaque dialogue avec Dieu est une grâce, c'est le cœur de la catéchèse du pape François livrée ce matin lors de l'audience générale. Nous y revenons en début de ce journal. Le Saint-Père, qui à 3 jours de son départ pour l'Irak, demande aux fidèles de prier pour la réussite de ce pèlerinage. Nous irons sur place à Bagdad à la rencontre des paroissiens. Puis direction Rangoon en Birmanie où s'achève une nouvelle journée sanglante. 9 personnes sont mortes dans les manifestations. En Israël, la période d'isolement lors de son arrivée sur le territoire se fait sous étroite surveillance. Le gouvernement lance, nous l'entendrons, un projet pilote de bracelet électronique pour les personnes devant effectuer une quarantaine.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, chaque dialogue avec Dieu est une grâce. Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière lors de l'audience générale de ce matin. Et depuis la bibliothèque du Palais Apostolique, le Saint-Père a surtout médité sur la vocation de la prière comme porte d'entrée à la Sainte Trinité. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
La prière nous ouvre à la Trinité, à la mère immense de Dieu. Mais comment prier? Par quels mots, sentiments, langage? A questionné François avant de répondre. Dieu regarde en effet les mains de celui qui prie, et pour les rendre pures, il ne faut pas les laver, mais plutôt s'abstenir de mauvaises actions. Car dialoguer avec Dieu est une grâce, et si nous n'en sommes pas dignes, que nous boitons avec chaque parole et pensée, Jésus est à chaque fois une porte qui s'ouvre.
Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo se non avessimo conosciuto Gesù.
Nous n'aurions jamais eu le courage de croire à un Dieu qui aime l'homme si nous n'avions pas connu Jésus, a affirmé François, expliquant à quel point il s'agit d'un fait incroyable comparé aux anciennes divinités mythologiques, aux dieux qui faisaient bien peu de cas de l'homme. Quel Dieu est en effet disposé à mourir pour l'homme? Quel Dieu aime patiemment, sans prétention d'être aimé en retour, interroge le pape. Nous imaginons difficilement cet amour dont la Sainte Trinité est riche, assure-t-il. Nous sommes le terme d'un amour qui n'a pas d'égal sur la terre et nous ne pouvions vraiment pas espérer de plus haute vocation, conclut le souverain pontife, à savoir l'humanité de Jésus qui a rendu la vie de la Trinité elle-même disponible pour tous.
Delphine Allaire. François qui demande aux fidèles de prier pour son voyage en Irak, pour que cette visite soit une réussite, alors que de nouveaux tirs de roquettes sont abattus ce matin sur une base abritant des soldats américains dans l'ouest du pays. Le peuple irakien nous attend, a répété le pape, comme il attendait Jean-Paul II à qui l'on a interdit de partir. Nous ne pouvons pas décevoir un peuple une deuxième fois, a martelé le souverain pontife. En effet, l'attente sur place est grande et prenons tout de suite la direction de Bagdad, plus précisément de la cathédrale de Saint-Joseph dans la capitale irakienne, où le pape célébrera la messe ce samedi à 18h. Notre confrère de RCF, Étienne Pépin, est allé à la rencontre de paroissiens de Mar-Youssef. Il a tendu son micro à Nadia et Adam.
Nous souhaitons que le pape provoque un changement pour plus de sécurité pour les chrétiens en particulier et pour les Irakiens en général. Nous pensons que la venue du Saint-Père est un encouragement à rester vivre ici. Avec l'attaque de Sayyedat al-Najat en 2010 et la présence oppressante de Daesh et d'Al-Qaïda en Irak, nous ne nous sentons pas en sécurité ici. Je ne peux pas laisser ma fille aller à l'école toute seule.
Nous sommes très heureux de recevoir le Saint-Père, mais nous sommes très déçus de ne pas pouvoir le voir car il n'y a pas assez de tickets pour accéder à la cathédrale pour la messe. L'accès est très limité à cause du coronavirus. Chacune des paroisses de Bagdad n'a que 13 tickets pour les paroissiens. Donc nous suivrons le pape à la télévision. C'est dommage, il vient pour nous, mais nous ne pourrons pas vraiment le voir.
Les paroissiens de la cathédrale Saint-Joseph de Bagdad, au micro d'Étienne Pépin de RCF, avec le soutien de Fraternité en Irak. Et pour plus d'approfondissement et découvrir en détail le programme de ce voyage apostolique, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.vaticannews.va. Autre sujet à la une de l'actualité et des préoccupations de l'évêque de Rome, la vague de manifestations contre le coup d'État sévèrement réprimé en Birmanie. Le dialogue doit prévaloir sur la répression et l'harmonie sur la discorde, a déclaré tout à l'heure le pape avant d'appeler à la libération des prisonniers politiques birmans. Sur place, en effet, c'est une nouvelle journée sanglante qui touche à sa fin. Dans toute la Birmanie, la police charge à balles réelles sur les manifestants sans armes et commence sans prendre à la population. C'est ce que nous détaille notre correspondante sur place, Juliette Verlin.
On annonce au moins 9 morts à l'heure actuelle dans le pays, ce qui en fait la deuxième journée la plus sanglante après dimanche dernier. À Rangoon, une personne aurait été tuée dans le quartier de North Okalapa, dans le nord de la ville, et les hôpitaux continuent de voir arriver des dizaines de blessés, parfois dans un état critique. À Mandalay, deuxième ville du pays, 3 manifestants ont été tués, dont une jeune femme de 19 ans. Elle portait un t-shirt avec le message « Everything will be okay », tout va bien se passer, et elle avait sur elle un bout de papier sur lequel elle avait écrit son propre groupe sanguin et son souhait de donner ses organes à ceux qui en auraient besoin. Dans le centre-ville historique de Rangoon, l'armée s'est installée pour la première fois cet après-midi et bloquait les principaux accès. Un homme et son fils qui filmaient un passage de soldats dans sa rue depuis leur appartement se sont fait tirer dessus. Aux dernières nouvelles, ils allaient bien. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux, on y voit des policiers en train de frapper le personnel médical d'une ambulance avant de détruire leur véhicule à Rangoon. Dans les rues, l'ambiance est électrique, les militaires semblent tirer de manière indiscriminée. Il ne s'agit plus du tout de disperser les manifestations. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
Au Bangladesh, les manifestants obtiennent satisfaction. Un caricaturiste emprisonné il y a 10 mois vient de retrouver la liberté ce mercredi. Il avait été mis derrière les barreaux après avoir croqué un puissant homme d'affaires proche du gouvernement. Selon son frère, le dessinateur a été torturé en prison. Il avait été arrêté en même temps que l'écrivain Mushtaq Ahmed, mort lui jeudi dernier en détention, ce qui avait déclenché une vague de colère. Plusieurs centaines de personnes s'étaient alors réunies dans la rue pour demander la libération du dessinateur. Après de nouvelles sanctions américaines et européennes contre de hauts responsables russes dans le cadre de l'affaire Navalny, le Kremlin fait ce midi part de sa colère et avertit notamment la Maison-Blanche « Il ne faut pas jouer avec le feu », déclare le porte-parole du Kremlin, qui estime que ces sanctions nuisent considérablement aux relations déjà déplorables, je cite, « entre la Russie et les Occidentaux ». Pour endiguer la pandémie de coronavirus sur son territoire, Israël entend prendre des mesures radicales. Pour l'instant, les frontières restent fermées et les rares personnes qui parviennent à se faire rapatrier doivent rester 2 semaines à l'isolement. Alors pour éviter aux voyageurs la quarantaine dans des hôtels, le gouvernement lance un projet pilote de bracelets électroniques. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Léger, ergonomique et étanche, le bracelet électronique est accompagné d'un smartphone et d'une balise. Depuis lundi, les kits sont disponibles à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. L'avantage pour les personnes non vaccinées qui arrivent dans le pays, passer la quarantaine de rigueur à domicile plutôt que dans des hôtels gérés par l'État. L'adresse de l'individu est enregistrée grâce à un système GPS sur le téléphone et le signal émis surveillé par les autorités sanitaires. Pour obtenir le bracelet, les voyageurs doivent justifier d'un test PCR négatif datant de 72 heures avant le décollage, puis d'un autre à leur arrivée en Israël. Il s'agit pour le moment d'un projet pilote, mais la start-up qui a mis au point les bracelets prévoit d'en distribuer des dizaines de milliers. Un dispositif décrié en Israël pour ses atteintes au respect de la vie privée. Des recours pourraient être déposés devant les instances juridiques. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Le Liban, englué dans le marasme économique sur le marché noir, la livre libanaise chute pour atteindre un niveau bas inédit, 10 000 livres libanaises pour 1 dollar. Et ce n'est pas sans déclencher la colère de la rue. Hier, dans plusieurs régions du pays, y compris dans la capitale Beyrouth, des dizaines de manifestants ont bloqué les routes pour faire part de leur désespoir. En France, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église continue son travail. Hier, lors d'un point presse, pour rendre compte de ses avancées, son président, Jean-Marc Sauvé, a dit revoir fortement à la hausse le nombre de victimes, au moins 10 000 personnes depuis les années 50, estime-t-il. Et nous sommes encore loin de la vérité, a ajouté Jean-Marc Sauvé. Et puis avant de se quitter, cette bonne nouvelle qui nous vient d'Éthiopie. Les 4 journalistes et traducteurs arrêtés dans la région du Tigré il y a quelques jours ont été relâchés aujourd'hui. Ils ont pu rejoindre la capitale éthiopienne. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Le prochain retour de la formation, c'est tout à l'heure, à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité de l'Église et du Saint-Siège sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous souhaite une très belle après-midi.